Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans une semaine, les députés vont entamer en séance publique la discussion sur le projet de loi de finances pour 2018. Un débat budgétaire qui promet d'être animé, car parmi les réformes annoncées, il en est une qui a du mal à passer, celle de l'impôt de solidarité sur la fortune. L'ISF, tout un symbole. Ses détracteurs n'ont de cesse depuis sa création de dénoncer son faible rendement et son impact néfaste sur l'activité économique, quand ses défenseurs y voient un outil de redistribution nécessaire au nom de la solidarité. Jusque-là, à chaque alternance, le dispositif était réajusté, mais l'ISF, lui, demeurait. Bientôt, il aura disparu. La majorité veut le transformer en impôt sur la fortune immobilière. Les valeurs mobilières, actions, obligations notamment, n'y seront donc plus soumises. Conséquence directe, ce nouvel impôt rapportera beaucoup moins à l'État. Mais le gouvernement estime qu'en allégeant la fiscalité du capital, l'argent ira là où il est le plus utile, à savoir dans l'économie. Alors il s'agit moins d'une certitude que d'un pari qui fait ressurgir un vieux débat sur le type de fiscalité à appliquer aux plus hauts revenus. Alors jusqu'où taxer la fortune ? Eh bien, c'est le débat que nous vous proposons ce soir, débat politique avec un certain nombre de familles politiques représentées. Elles ne le sont pas toutes, on peut pas le faire à chaque fois. Je le précise pour ceux qui nous diraient pourquoi il y a personne, par exemple, de la France Insoumise ou pourquoi il y a personne du Front National. Il y aura d'autres émissions qui nous donneront l'occasion de les inviter. En tout cas, j'ai le plaisir pour discuter ce soir de recevoir Laurent Saint-Martin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne, vice-président de la Commission des Finances, de l'Économie Générale et du Contrôle Budgétaire. Pour discuter avec vous, Valérie Rabault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée socialiste du Tarn et Garonne, ancienne rapporteure générale du budget, co-rédactrice d'un contre-budget présenté par La Nouvelle Gauche. Et puis notre troisième invité, Manon Laporte. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate fiscaliste. Vous n'êtes pas députée. Vous étiez présenté en Seine-Saint-Denis, mais voilà, vous n'avez pas été élu. Vous êtes conseillère régionale Les Républicains d'Île-de-France. Je renvoie à un ouvrage que vous aviez publié il y a 2 ans, parce qu'il est quand même lié à la discussion de ce soir, Le Massacre Fiscal, ouvrage publié aux éditions du Moment. Alors Valérie Rabault, je voudrais commencer avec vous parce que vous avez exprimé de très fortes critiques par rapport à la suppression annoncée de cet impôt de solidarité sur la fortune. Est-ce que d'abord, ça veut dire, alors sans aller sur les différents motifs parce que ce sera justement l'objet de la discussion, mais est-ce que de votre point de vue, il aurait fallu maintenir l'ISF tel qu'il était jusqu'à aujourd'hui ?
De mon point de vue, il aurait fallu maintenir l'ISF et modifier un compartiment qui touche, j'ai envie de dire, l'actionnariat familial. Parce que vous avez des entreprises en France qui sont transmises aux enfants. Parmi les enfants, vous en avez en général un qui est dirigeant. Les deux autres ont évidemment leur part d'héritage, mais ne sont pas dirigeants. Celui qui est dirigeant ne paye pas l'impôt de solidarité sur la fortune et les deux autres le payent. Ce qui, évidemment, dans les familles, peut devenir compliqué, puisque les deux qui le payent demandent à celui qui est dirigeant et gérant d'augmenter les dividendes pour leur permettre de payer cet impôt de solidarité sur la fortune. Et parfois, ils sont tentés de vendre à des fonds extérieurs, ce sont souvent des fonds extérieurs. Donc là, il y a une difficulté qui, à mon avis, peut être relevée. Nous, on a fait une contre-proposition, on l'a inclus dans cette proposition-là, on l'a incluse dans notre contre-budget. On l'a aussi chiffré entre 200, 250, 300 millions d'euros, c'est à peu près l'ordre de grandeur, qui permettait, je crois, de répondre à cette question qui vise à préserver l'actionnariat familial de PME qui ont envie de grandir et qui parfois se retrouvent, lorsqu'on change de génération, lorsqu'on passe aux enfants, un peu coincés du fait que tout le monde n'est pas dirigeant de l'entreprise et que ça peut poser quelques difficultés dans le cercle familial.
Donc maintien de l'ISF, mais avec une amélioration d'un de ces dispositifs. Manon Laporte, je vous pose la même question. Est-ce que vous l'auriez maintenu tel quel l'ISF ou bien est-ce qu'au contraire, vous vous réjouissez de sa disparition prochaine ?
Nous, on avait demandé la suppression dans le programme des législatives, des présidentielles, pour la bonne raison qu'on pense que c'est un impôt symbolique, qu'il rapporte finalement beaucoup moins, on dépense beaucoup plus qu'il ne rapporte.
Ça, c'est pas vrai.
Et donc, si, c'est vrai, vous le savez. Et donc, il rapporte 5,2 milliards et puis avec des tas d'exonérations sur cet impôt. Donc, bon an, mal an, on sait qu'il a fait fuir un certain nombre de patrons de professions libérales et a entraîné un certain nombre de délocalisations. Et donc, on pense qu'il coûte plus cher qu'il ne rapporte.
Donc sa suppression, vous y êtes favorable. Enfin, est-ce que vous considérez que ce qui se profile là, c'est la suppression de l'ISF?
Je pense
ou bien que c'est une transformation de l'ISF, puisqu'il va peut-être renaître sous la forme d'un impôt sur la fortune immobilière.
Je sais pas si c'est comme ça que vous le voyez. Il ne peut pas renaître sous cette forme-là. Moi, ce que je pense, c'est une complicité. Ça va être très compliqué. Parce que d'abord, il faut des critères objectifs pour définir ce que c'est que la taxation des signes ostentatoires de richesse. Et puis, vous avez des parts, sans rentrer dans le détail, de SCI ou de SCPI qui vont être considérées comme des valeurs. Alors, on va les considérer comme des valeurs mobilières, donc exclues de l'assiette de l'ISF. Où est-ce qu'on le rentre? Vous voyez, il y a quand même des problèmes un peu techniques. Il va falloir les résoudre. Et je pense que ça va être compliqué de le taxer. Parce que si vous prenez, par exemple, l'article 168 du Code général des impôts, qui définit un certain nombre de critères de la taxation de richesse de signes ostentatoires, vous avez des yachts. Bon, les yachts, vous avez des chevaux de course, vous avez des droits de chasse, du golf. Alors, est-ce que vous allez taxer aussi ces droits, ces signes?
Et c'est peut-être ce que va nous expliquer justement Laurent Saint-Martin. Donc je rappelle, vous êtes député La République En Marche. Avant peut-être que d'aller sur cette question des signes ostentatoires qui est à la fois importante symboliquement, mais qui est peut-être pas la plus essentielle, en tout cas du point de vue du rendement de cette fiscalité. L'ISF, donc, est-ce qu'il est supprimé? Je disais, il va renaître sous la forme de l'impôt sur la fortune immobilière, parce que c'est quand même garder une partie du dispositif de l'ISF, même si ce sera sous un autre nom. C'est une suppression partielle, non? Comment est-ce que vous le diriez, vous?
Techniquement, c'est une suppression pure et simple et totale de l'ISF, tel qu'il existait. Et il y a la création d'un nouvel impôt, qui s'appelle donc l'impôt sur la fortune immobilière.
Mais qui reprend une partie du dispositif de l'ancien.
Qui reprend l'assiette du patrimoine immobilier, et uniquement l'assiette du patrimoine immobilier. Donc c'est comme ça qu'a été construit. Pourquoi? Ça, c'était une mesure phare du programme d'Emmanuel Macron. Donc déjà, je tiens à dire que c'était attendu et souhaité par une majorité de Français, ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron.
En tout cas, c'était connu.
Et pendant la campagne, personnellement, j'ai trouvé qu'une majorité de Français que j'ai rencontrés était favorable à cela. Et ce n'étaient pas des Français forcément issus de catégories aisées. La philosophie qu'il y a derrière cette transformation d'ISF en IFI, c'est taxer la rente telle qu'elle est déjà taxé aujourd'hui, guère plus. Ce sont la même assiette et le même taux que l'ISF le prévoyait pour la fortune immobilière. En revanche, c'est libérer une partie de l'épargne de ces Français-là pour aller investir dans les entreprises françaises. Donc pour renforcer leurs fonds propres, que ce soit de façon directe ou via des intermédiaires, mais renforcer la capacité financière de nos entreprises. Pourquoi renforcer cette capacité financière? Parce que vous savez très bien que en France, nos PME, nos ETI et dans une certaine mesure certaines grandes entreprises manquent de solidité en haut de bilan et ont des difficultés à investir. Et difficulté à investir, c'est aussi difficulté à investir dans le capital humain, donc à la clé, c'est l'emploi.
Alors je voudrais juste, avant de poursuivre, interroger Valérie Rabault et Manon Laporte sur ce principe que vous énoncez, Laurent Saint-Martin, parce qu'il est effectivement, me semble-t-il, au cœur de cette réforme, taxer la rente et en gros encourager le risque pour que le capital soit productif. Est-ce que sur le principe, Valérie Rabault, c'est quelque chose qui vous semble intéressant? Après, on verra si, dans les faits, c'est quelque chose qui vous semble pertinent. Mais est-ce que sur le principe, taxer la rente, encourager le risque?
Moi, j'ai toujours été favorable, je l'ai écrit dans plusieurs livres, donc on ne pourra pas me taxer de l'inventer aujourd'hui, à faire en sorte qu'on ait des taxations différenciées selon la prise de risque. Et j'entends très bien ce que dit Laurent Saint-Martin sur la prise de risque. Il est effectivement indéniable que les entreprises françaises, les PME, ont besoin d'argent pour pouvoir grandir, pouvoir devenir des ETI et peut-être aussi des grandes entreprises.
Et on est d'accord que la prise de risque, elle est plus importante sur le capital mobilier que sur le capital immobilier.
Là, on est d'accord. Pour autant, si vous faites un chèque en blanc, si aujourd'hui je vous dis demain, vous ne paierez plus d'impôt sur la fortune, qui va vous obliger à aller investir dans les PME ou même dans les entreprises? Personne. C'est, vous l'avez dit au début de l'émission, c'est un pari. Donc aujourd'hui, c'est un chèque en blanc. Et en France, on a cette incroyable particularité où on est parmi les Européens le peuple qui économise le plus, ou qui épargne le plus, je ne sais pas comment il faut le dire, près de 15% de nos revenus en moyenne, quand l'Europe est à 10%, et même le Royaume-Uni, il y a 2 ans, était à 5%. Donc, ce qui montre qu'on a envie de placer notre argent, et on le place, pour ceux qui ne le placent pas dans la pierre, dans l'assurance-vie, qui bénéficie déjà d'exonération fiscale. Puisque si vous gardez votre placement pendant 8 ans, vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus que vous dégagerez. Donc ce qui bénéficie déjà d'exonération fiscale. Sauf que cette assurance vie, Eh bien, peut-être parce qu'on est un peu peureux ou un peu frileux, je ne sais pas comment il faut dire, on la place sur des contrats euros, c'est-à-dire que vous avez votre capital garanti. Vous ne prenez pas de risque. Si j'investis dans une PME, je ne sais pas si elle va arriver à décrocher les marchés qu'elle veut, à faire les recherches qu'elle veut. Et donc, il y a un risque que je perde mon argent, que je perde le capital que j'ai investi. Or, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On investit beaucoup dans de l'épargne qui est sûre. Et la suppression de l'impôt sur la fortune telle qu'elle existe aujourd'hui ne flèche en rien l'argent qui va être libéré, les 3,2 milliards d'euros. Ils ne vont pas être fléchés vers de la prise de risque. Et ça, c'est embêtant. C'est-à-dire que avoir une réflexion qui dit oui, on taxe plus ce qui est plus risqué, plus courageux, c'est-à-dire placer son argent dans des placements plus risqués, ça, c'est une bonne chose. Là, c'est pas du tout ce qui est fait. C'est un chèque en blanc.
Laurent Saint-Martin, qu'est-ce qui vous ferait dire, vous, que ce pari-là, c'est un pari que vous pensez gagnant et que, avec la suppression de l'ISF, les gens vont prendre davantage de risques et financer davantage ce qu'on appelle l'économie réelle?
Valérie Rabault a tout à fait raison de pointer un sujet majeur dans cette réforme-là. C'est, pour vulgariser, qu'est-ce qui nous assure, quels sont les indicateurs qui nous prouvent que cet argent libéré, que cette épargne libérée va effectivement aller dans les entreprises des Français. Elle a raison de poser la question, et c'est une question de politique économique. Quand on fait un choc d'offres, on ne peut pas mettre des balises partout, on sait, l'histoire économique nous a appris que ça ne fonctionnait pas comme cela. En revanche, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mettre des balises partout qu'on ne peut pas inciter fiscalement ou orienter l'épargne via des politiques publiques. C'est pourquoi il ne faut jamais dissocier cette réforme de l'impôt sur la solidarité de la fortune de ce que nous allons mettre en place via le prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelait au début de la campagne cette fameuse flat tax. C'est-à-dire un impôt unique sur les revenus du capital de 30% pour une meilleure lisibilité et pour inciter finalement ces mêmes personnes qui avaient effectivement de l'épargne dans les valeurs mobilières à investir davantage dans nos entreprises françaises. Premier exemple. Et puis, deuxième exemple, et là c'est le rôle du Parlement de prendre toute sa part là-dedans, le groupe parlementaire de La République En Marche va déposer un amendement pour pouvoir favoriser un outil aujourd'hui fiscal qui existe, qui s'appelle IR-PME, si vous me permettez un petit peu de technicité, que nous souhaitons, aujourd'hui nous en sommes à ce stade-là, que nous souhaitons gonfler, favoriser pour que ces mêmes investisseurs, ces mêmes preneurs de risques aillent davantage dans nos PME.
Donc c'est-à-dire c'est donner des avantages fiscaux quand on investit dans les PME.
Donc, au moins de façon... Donc en fait, ils ont double avantage fiscal.
Au moins de façon temporaire, puisque effectivement, il est important... Non mais, vous posez un sujet crucial et nous y répondons, puisque nous devons créer quelques rails pour s'assurer effectivement que cette épargne-là ne dorme pas et aille bien directement dans les fonds propres de l'entreprise. C'est ce que nous faisons.
J'entendais Manon Laporte dire, ce dispositif-là, il existe déjà au sein de l'ISF.
Le dispositif de réaction des PME, il existe au niveau de l'impôt sur le revenu et de l'ISF, de toute façon. Donc,
l'ISF étant supprimé, par définition, l'ISF-PME est supprimé aussi.
Il n'est pas encore supprimé, cela dit, Laurent Saint-Martin.
Il faut que le Parlement le vote. Bon, j'observe d'abord que les revenus fonciers sont encore taxables. Donc ça veut dire que la France, c'est le seul pays européen où vous taxez l'assiette du foncier et vous taxez les revenus. Donc en fait, il y a un double impôt. Ça, pour l'instant, vous ne l'avez pas enlevé. Ça reste tel quel. Ensuite, on est quand même dérogatoire au système européen. On est quand même les deux seuls pays, enfin dans l'Union européenne, il y a deux pays qui ont encore l'ISF. Donc on reste aussi, on est quand même très isolé au sein de l'Union européenne.
Et puis j'observe, l'ISF, si vous me permettez.
Non, vous le supprimez pas. Et si. J'observe que l'ISF, là, je vais peut-être vous rejoindre, concerne, enfin, je veux dire, c'est pas les très grosses fortunes immobilières. Vous savez que les gens extrêmement riches, finalement, ont plus capitalisé sur des valeurs mobilières que sur des fortunes immobilières, parce que avec le prix de l'immobilier. On sait que ce sont des gens qui ont des résidences principales, la majorité du temps, qui ne sont pas du tout aisés, qui ont peu de fortune, qui sont quand même taxés. Donc, ça ne va pas favoriser les moins riches vont quand même être surtaxés.
Ça veut dire que pour vous, du coup, Manon Laporte, cette réforme-là, elle ne va pas contribuer à favoriser l'investissement dans l'économie, l'investissement dans les PME, dans les entreprises.
Mais j'ai juste une question en réponse.
Alors, Laurent Saint-Martin et ensuite Valérie Rabault.
Excusez-moi. Vous qui, dans votre programme, souhaitiez totalement supprimer l'ISF.
Je rappelle, le programme, c'était celui de François Fillon.
Oui. Celui de François Fillon et celui des Républicains aux législatives. Mmh. Où était censé aller cet argent?
Laquelle ?
Il n'y avait pas plus de fléchage, c'est vrai.
Il y en avait moins. Ah oui,
dans le Républicain, il n'y avait pas plus
de fléchage. Il y en avait moins, et en plus...
Je parle de suppression de l'ISF, parce que
je dis qu'il y a... Et en plus, vous ne taxez même pas la rente immobilière.
Il y a des retombées fiscales, parce que moi, je suis contre l'ISF, de toute façon, parce que c'est un impôt idéologique, je l'ai toujours dit, et quand il y a une cascade avec les droits d'enregistrement, les plus-values immobilières, etc., au bout d'un moment, ça fait beaucoup.
Donc vous assumez le cadeau fiscal. C'est on supprime l'ISF, point. Et on n'essaie pas de réorienter dans l'économie. Ce n'est pas ce que nous faisons.
Non, c'est ce qui est dans le projet de loi. Vous compliquez le système.
Laurent, cadeau fiscal.
Mais c'est ce qui est dans le projet de loi aujourd'hui.
Vous compliquez le système fiscal aujourd'hui.
Si. Non. Ah, dans le texte qu'on a eu et sur lequel on a déposé des amendements jusqu'à samedi midi, il n'y avait pas de fléchage.
Alors, on ne va pas refaire l'état précédent.
Il va y en avoir. Si j'ai bien compris Laurent Saint-Martin, il va y en avoir.
Mais j'attends de voir de combien les 3 milliards d'euros seront fléchés. Parce que si c'est pour faire comme sur les yachts, on nous dit 10 millions d'euros, 10 millions ramenés à 4 milliards 3, ça fait juste 1, enfin pas grand chose. Non, je voudrais quand même revenir sur cette histoire de prélèvement unique. Parce que Laurent Saint-Martin dit 30%. Il a raison. Les 30%, ils incluent 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Voilà, 12,8 et 17,2, ça fait 30. Quand vous êtes taxé à 12,8%, vous êtes moins taxé que quelqu'un qui gagne 1400 euros par mois. Quelqu'un qui gagne 1400 euros par mois, il commence à payer de l'impôt sur le revenu à un taux de 14%. C'est-à-dire que vous pouvez... Avec la proposition qui est faite par La République En Marche et le président de la République, vous pouvez avoir quelqu'un qui a 10 millions d'euros de revenus par an, des revenus de son capital, supposons qu'il ait une certaine... Eh bien, ces 10 millions d'euros seront taxés, alors les 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% de taxation au titre de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'il sera taxé moins que quelqu'un qui gagne 1400 euros par mois.
Et vous oubliez toutes les mesures de pouvoir d'achat en face qui sont justement faites
pour redonner. Ça ne s'est jamais fait en France. C'est une première hors norme. Même Nicolas Sarkozy ne l'avait pas fait.
C'est dire.
Non, mais c'est dire.
Il a proposé d'autres mesures efficaces.
Mais il ne l'avait pas fait. Là, on est en train de demander à quelqu'un qui gagne 1400 euros par mois de payer plus d'impôts que quelqu'un qui a 10 millions d'euros de revenus de capital par an.
Tout le monde gagne en pouvoir d'achat, Valérie Rabault, vous le savez.
Ah non, je sais parfaitement que vous avez fait une étude sur le pouvoir d'achat. Laissez-moi finir. Vous avez fait une étude sur le pouvoir d'achat qui prend en compte les plus et qui ne prend pas en compte, par exemple, la fiscalité écologique. J'ai lu le petit livret jaune en long, en large et en travers. Il n'y a pas écrit la fiscalité écologique. La fiscalité écologique pour une famille, deux enfants, deux parents qui roulent au diesel et qui se chauffe au fuel, c'est sur le quinquennat plus 576 euros de taxes à payer.
Laurent Saint-Martin. Non. Valérie Rabault a trop d'expérience pour pas savoir qu'elle prend le budget sur un seul d'un seul.
J'ai
bout.
Toujours fait les plus. Des additions.
Là, il y a une vision totalement tronquée par cet impôt-là, où effectivement, on peut avoir certains cas où des personnes aisées payent facialement en pourcentage moins d'impôts que des personnes plus modestes. Sauf que justement. Toute la complexité et toute l'efficacité du budget que La République En Marche propose, que le gouvernement propose et que nous souhaitons voter, c'est justement que toutes les mesures de pouvoir d'achat qui sont là pour rehausser tous les moyens des personnes les plus modestes vont, en proportion, et ça vous l'avez très bien vu dans un article des Échos qui est très bien fait chez vos confrères, ce sont les déciles les plus modestes qui vont gagner le plus en pouvoir d'achat en pourcentage.
Donc vous dites quoi ? Il y a une cohérence globale,
c'est-à-dire le budget, il faut le regarder dans sa globalité.
Je suis désolée.
Pas tous en même temps.
L'article des Échos fait référence à une étude du Trésor qui ne prend pas en compte la fiscalité écologique. Les Échos ont choisi de publier le premier graphe de cette étude et pas le deuxième, qui contient l'impact de la fiscalité écologique. Moi, j'ai été très choquée par cette étude du Trésor, parce que quand même, ce sont des gens sérieux, plutôt très intelligents.
Et objectifs.
Mais là, les bras m'en sont tombés. Je l'ai écrit publiquement. Ils ont fait un calcul sans prendre en compte la fiscalité écologique.
Vous n'allez pas faire une étude du Trésor avec qui roule au diesel, qui roule à l'essence.
Ils l'ont fait d'ailleurs dans la page 75.
Essayez de ne pas vous interrompre en permanence, ce sera mieux pour les auditeurs.
Je peux comprendre que nous ayons des divergences et le débat en commission et en séance sera là pour ça. La vérité de ce budget, l'honnêteté intellectuelle, c'est de reconnaître que nous réussissons le pari de baisser le déficit de la France, de baisser la dette durablement de la France et dans le même temps de baisser les impôts et de donner du pouvoir d'achat à plus de 6 Français sur 10. Que ce soit pas...
Mais c'est pas les impôts.
Que ce soit... Si, ça s'appelle les prélèvements obligatoires, ce sont des impôts. Qu'il y ait des divergences de vues sur tel ou tel gain de pouvoir d'achat, pourquoi pas, mais plus de 6 Français sur 10 en gagnent pouvoir d'achat, et à commencer par les plus modestes. Donc la première des vérités, c'est de dire cela. Sur la fiscalité écologique, puisqu'on pose la question, il y a des choix qui sont faits. L'alignement du diesel sur l'essence, c'est un choix. Parce que nous considérons que la fiscalité écologique est aussi un outil pour des questions d'environnement, pour des questions de santé publique. Donc ce n'est pas uniquement comptable de considérer la fiscalité verte. Donc, primo, nous donnons du pouvoir d'achat à plus de 6 Français sur 10. Et en plus, nous réussissons le pari que, malheureusement, aucun gouvernement, depuis un petit moment, n'a réussi à faire. C'est faire passer le déficit public de la France sous les 3%, et ce, de manière durable.
Bah alors, autant j'arrive à peu près à comprendre et votre position, Laurent Saint-Martin et Valérie Rabault. Autant Manon Laporte, alors pardonnez-moi, mais j'ai un peu plus de mal à comprendre la position des Républicains, en tout cas dans ce débat, puisque comme vous le rappeliez, votre candidat et puis le parti était pour la suppression de...
Nous, on veut relocaliser les actifs.
Mais est-ce que, en fait, votre opposition, vous, à cet impôt-là, à cet impôt de solidarité sur la fortune, c'est d'abord une opposition, de principe, ou bien, par extension, qu'est-ce que vous considérez comme un impôt efficace sur le plan économique?
Un impôt efficace, c'est un impôt qui a des taux faibles et qui a une assiette large. Quand vous prenez l'ISF, vous aviez des tas d'exonérations. Tout à l'heure, vous n'avez pas parlé du pacte du Treil, mais le pacte du Treil, ça vous exonère en fait d'ISF et de droits de succession. Donc en fait, l'ISF, comme dans tous les impôts en France, en France, vous avez des exonérations, des abattements qui aboutit à ce que finalement, ça ne rapporte rien. Quasiment rien. Et ça coûte beaucoup plus à la France, et je le répète, que ça ne rapporte. Donc, la suppression de l'ISF, qui est un impôt purement idéologique, purement symbolique, on l'aurait supprimé et on aurait refait revenir bien plus les exilés fiscaux en France, effectivement ce que vous avez dit, à dire voilà, on rapatrie nos impôts, on a une exonération d'ISF pendant tant d'années comme les impatriés, par exemple, sous réserve d'investir dans l'économie française ou dans les PME ou les TPE.
Est-ce que vous avez la même analyse ou est-ce que c'est un peu différent par rapport à ce fameux prélèvement forfaitaire unique qui va s'appliquer normalement dès le 1er janvier prochain sur les revenus du capital, taux forfaitaire, donc 30% pour tout le monde. Là, vous êtes d'accord. Ça correspond davantage à ce que vous préconisez.
J'aurais même dit plutôt 20% que 30%, mais sur la flat tax, oui, je suis tout à fait d'accord.
Sur la question du retour d'un certain nombre d'exilés fiscaux, Valérie Rabault, si ces réformes-là ont quand même justement pour effet de faire revenir un certain nombre de contribuables qui peuvent à la fois justement contribuer, bien sûr, et par leur impôt, mais aussi par leurs investissements à la bonne santé de l'économie française, est-ce que ça ne vaut pas le coup, en tout cas, d'essayer, c'est-à-dire de tenter ce pari-là?
Moi, je constate juste que ce que s'apprête à faire le gouvernement et sa majorité, c'est un chèque en blanc, sans condition, de 4,5 milliards d'euros. L'année prochaine, je souhaite que peut-être ici, sur ce même plateau, vous nous posiez la question de savoir s'il y a eu 4,5 milliards d'euros de plus investis dans les PME françaises.
J'ai entendu Bruno Le Maire ce matin dire on va prendre 2 ans pour évaluer les nouveaux dispositifs.
Ans. On fera la même émission dans 2 ans si vous nous invitez, on reviendra avec plaisir. Mais je le souhaite, bien évidemment. Je souhaite la réussite de mon pays, mais je crains que ça ne se passe pas comme ça. Parce que quand on regarde l'histoire depuis 30, 40 ans de ce que sont les placements des Français, de ce que sont les investissements des Français, on voit que ça ne se passe pas comme ça. On a déjà eu une première expérience quand en 86, Jacques Chirac a supprimé l'ISF. Et l'histoire ne s'est pas passée comme on nous dit aujourd'hui qu'elle devrait se passer, comme ce qu'on veut nous raconter. Donc je crains que ce soit un chèque en blanc qui ne rapporte pas suffisamment à l'économie française.
Est-ce que la majorité présidentielle à laquelle vous appartenez, Laurent Saint-Martin, est prête à dire aujourd'hui, on essaie, et si après évaluation, on se rend compte que les effets qu'on attendait ne sont pas au rendez-vous, on est prêt à revenir sur la réforme et pourquoi pas à remettre en marche, si j'ose dire, l'impôt de solidarité sur la fortune?
Alors, plusieurs choses. D'abord, l'histoire, ça dépend où on la regarde et aussi de la géographie. Il y a des pays sur lesquels ça a très bien fonctionné. L'exemple de la Suède dans les années 90, notamment au début des années 90, où vous verrez exactement ce système de prélèvement forfaitaire unique qui a réellement réorienté l'épargne dans les fonds propres d'entreprise avec grand grand succès.
Bon,
mais
ça marche pas en France.
Mais effectivement, la Suède n'est pas la France. Et donc, Valérie Rabault a raison de dire que en France, nous avons une culture assez faible du risque. Il y a plutôt une aversion au risque et à l'investissement en action. Donc, ça demande bien davantage que cet environnement fiscal et réglementaire que nous mettons en place. Ça demande un changement culturel. Et là, je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table. Donc, nous allons nous y atteler dès la fin de ce projet de loi de finances pour, avec les intermédiaires, c'est-à-dire les banques et les assurances principalement, mais tout intermédiaire financier, créer de nouveaux produits qui vont pouvoir inciter les Français à aller prendre du risque, mais du risque maîtrisé, du risque raisonné, mais qui ne soit pas, comme Valérie Rabault l'a très bien dit, les trois quarts de l'assurance vie dans l'obligataire, c'est-à-dire dans du non risqué, et ce qui ne va pas nourrir notre économie réelle.
Mais vous ne répondez pas vraiment à ma question.
J'allais
là.
Y venir. Ah. Sur quelle partie vous...
Eh ben sur la partie une évaluation. Oui. J'ai entendu donc le ministre de l'économie et des finances ce matin dire
sur la partie,
on prend deux ans pour évaluer. Et après, une fois qu'on a évalué, l'évaluation, elle sert à prendre des décisions.
Sur la partie de l'évaluation, sans vouloir faire trop de teasers, il va effectivement y avoir un amendement du groupe de La République En Marche qui va proposer une évaluation concrète, justement, de l'efficacité et de la suppression de l'ISF en IFI et du prélèvement forfaitaire unique. Donc tout ça va être assez. Pourquoi ? Parce que c'est une mission du Parlement de faire du contrôle de l'exécutif et de l'évaluation de politique publique. Donc ce sera un amendement proposé par notre groupe et nous le souhaitons voter et adopter pour que le gouvernement puisse nous présenter régulièrement, nous le souhaitons annuellement, un rapport de l'efficacité de ces politiques.
Manon Laporte.
Votre analyse, pardon, elle est assez incomplète sur la Suède parce que la Suède, elle a baissé son impôt sur le revenu. Et donc, enlever ces niches fiscales, ce qui lui a permis effectivement de baisser l'impôt sur le travail et donc l'investissement dans l'épargne. Donc, c'est pas l'impôt sur l'épargne qui a fait que...
Et que faisons-nous sinon donner du pouvoir d'achat aux Français pour qu'ils puissent investir ?
Non, mais je vous parle pas de pouvoir d'achat, je vous parle d'impôt sur le revenu pour l'instant.
Oui, enfin,
les Français, ils sont imposés, ils peuvent être imposés à 62%. Donc, vous ne baissez pas la charge de l'impôt sur le revenu. Et vous,
non, mais nous baissons les cotisations sociales et les Français ont plus de
dettes fiscales. Non, mais vous avez augmenté la CSG, attendez. Vous avez augmenté la CSG.
Mais moins que la baisse des cotisations sociale, oui. Soyez honnête, vous connaissez
le
programme.
On verra la différence.
Pour les salariés. Pour les salariés et personne.
Pour les retraités, ils en prennent plein la
petite partie des retraités, effectivement, il y a une solidarité intergénérationnelle qui est demandée.
Sur 14 millions de retraités, il y en a 8 millions.
Nous, l'assurance, ça s'appelle de la redistribution, Valérie Rabault, je pense que vous devriez publiciter.
Pour l'exemple de la Suède, votre raisonnement était insuffisant. Enfin, incomplet, pardon. Voilà, parce qu'en même temps, il y a eu plusieurs baisses et en plus une réduction des déficits, ce qui a permis de redémarrer. Ce qui a permis, parce que l'illisibilité d'un système fiscal, vous le savez autant que moi, c'est ça favorise la fraude fiscale. Et plus vous multipliez les niches, les exonérations, vos taxations sur les yachts, les montres, etc., plus vous facilitez la fraude fiscale.
Disons peut-être justement un mot,
complexité de votre système.
Disons peut-être justement un mot de cette taxation, de ces fameux signes ostentatoires de richesse dont on parle beaucoup ces derniers jours, avec le constat qu'en supprimant l'ISF et en créant cet impôt sur la fortune immobilière, il y avait un certain nombre de biens, disons, qui étaient exclus de ce l'ex-ISF. Alors les fameux yachts, les lingots d'or, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin il y a tout un tas de choses. Est-ce que là il faudrait les réintégrer pour vous, Valérie Rabault, dans les contre-propositions que vous faites dans leur
aucune contre-proposition là-dessus, puisqu'on a dans notre contre-budget on maintient l'ISF et on prévoit un aménagement pour un compartiment, ce que j'ai appelé familial tout à l'heure. Donc c'est pas à moi qu'il faut poser la question, parce que honnêtement, les signes extérieurs de richesse, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc j'attends de voir, j'imagine que le groupe majoritaire va déposer un amendement, j'attends de voir ce qu'ils vont mettre dedans. J'ai juste lu une évaluation chez vos confrères hier du JDD, qui parlait de 10 ou 30 millions d'euros, donc moi quand je fais 10 et 30, ça fait 40. 40 par rapport à 4,5 milliards d'impôts supprimés, ça fait 1%. Il rétablirait 1%. Voilà. Donc, bon, pour nous, le compte n'y est pas. Et je ne sais pas ce que c'est qu'un signe extérieur de richesse.
Laurent Saint-Martin, j'ai un yacht, j'ai une voiture de luxe. C'est une Rolls-Royce vaut énormément d'argent. En plus, j'ai une Ferrari à côté et une Porsche. Et j'ai quelques lingots d'or chez moi. Qu'est-ce qui va se passer pour moi dans les amendements là auxquels vous êtes en train de réfléchir?
D'abord, je conseillerais à des amis de venir travailler à France Culture parce que ça a l'air de bien rémunérer.
Ça va, pas trop mal loti.
Et puis plus sérieusement, le sujet, évidemment, n'est pas que financier. et n'est pas que comptable. Il y a évidemment beaucoup de symboles en politique, vous le savez, et il y avait cette réflexion que je trouve assez bonne, qui est, nous supprimons l'ISF, mais dans l'ISF, il y avait un certain nombre de biens qui n'étaient pas de l'investissement productif. Un yacht, une voiture de luxe, ce n'est pas participer à l'économie réelle. Donc pourquoi ces biens-là, finalement, se retrouveraient exonérés? Ça vient de là. Ce n'est pas compenser les 4 milliards et demi, on n'a jamais proposé cela. C'est finalement pourquoi exclure ces objets-là, dits de richesse ostentatoire, pourquoi les exclure et pourquoi ne pas les remettre finalement dans un nouveau système de taxation.
Alors c'est comment, ce qui sera comment vous proposé. Allez les taxer, cela.
Nous allons utiliser les systèmes de taxes qui existent actuellement. Prenez par exemple la taxe sur la cession des métaux et des objets précieux qui sera proposée pour être augmentée. Sur les yachts, vous allez effectivement avoir aussi une augmentation de taxes existantes. Et pareil pour les voitures de sport ou les voitures de luxe. Ça dépend comment vous l'appelez. Donc ce n'est pas de la création d'une usine à gaz, ce n'est pas de la création de taxes existantes. Il y aura un amendement, mais encore une fois, nous en sommes qu'au stade de la proposition d'amendement, par le groupe majoritaire pour que ces objets-là soient taxés davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui, effectivement, pour rétablir une certaine logique de taxation que l'ISF proposait.
Bah ça doit vous convenir, Manon Laporte.
Oui, mais alors, comment vous faites? Alors, celui qui a 12 chevaux de course, vous les taxez ou vous les, ça sort de l'ISF, ça sort pas de l'ISF? Celui qui a un permis de chasse,
dans les signes extérieurs. Ne parlons plus d'ISF. Il n'y a pas de, il sort de l'ISF. Tout non, sort mais... de l'ISF. L'ISF n'existe plus. Il va y avoir des taxes existantes sur des objets de richesse qui seront augmentés.
Est-ce que vous allez taxer certains signes ostentatoires et pas d'autres? Comment vous allez?
Et ça, vous le verrez bien durant le débat parlementaire.
Non, mais je pose la question.
Non, mais nous, on ne décide rien. Là, on propose des amendements. Donc, nous verrons bien pendant le débat parlementaire. Et je vous invite à regarder en commission le débat qu'il y aura entre tous les parlementaires là-dessus, et puis en séance, et puis on verra bien ce qui est adopté et voté.
Mais ça veut dire que quoi, dans votre esprit, Manon Laporte, dans le souci de simplification, il faudrait de plus du tout taxer ces biens-là.
Pourquoi en taxer certains et pas d'autres? Sur quels critères objectifs on va taxer ces signes? Et là, je reviens au même raisonnement que
Valérie Rabault.
Comment on sait quels sont les critères objectifs de taxation ou pas, tout simplement?
Donc en l'absence de ces critères, ça complique encore, d'après vous, le...
Ce sont des objets qui étaient déjà taxés dans l'ISF. Nous n'inventons pas...
Et comment vous allez contrôler tout ça?
Parce que dans l'ISF, on met tout. On met tout son patrimoine. Qu'on ait une 205 mobilier. Ou une 208 Peugeot ou qu'on ait une Ferrari, ça rentre dans le patrimoine de l'ISF. Or, vous dites aujourd'hui, la Ferrari, on va la taxer, mais après, la Rolls-Royce, et puis, je ne sais pas quoi, moi, les voitures de course, enfin, je les connais.
Il y aura
qui a 10 montres qu'on trouve
vous
dans son coffre-fort.
Vous allez mettre le nombre de chevaux de la voiture, la marque des voitures,
il va falloir trouver effectivement des indicateurs objectifs.
Mais vous vous rendez compte, le contrôle qu'il va falloir faire là-dessus?
Et s'il y a des nouvelles voitures qui sont créées, qui sont inventées après que la loi est votée?
S'il y a
des nouvelles voitures qui sont inventées, parce que les constructeurs ont de la créativité.
Mais les indicateurs resteront les mêmes.
On voit bien en tout cas à quel point.
Ne vous inquiétez pas sur la complexité, c'est plus de simplicité.
Dans les débats sur la, dans les débats sur la fiscalité, on voit bien à quel point, on va dire les considérations politiques et les considérations peut-être plus strictement fiscales peuvent être parfois antagonistes, parce que voilà, il y a des symboles qui sont difficiles en tout cas à mettre en place de manière très concrète.
Mais la fiscalité n'est pas là pour faire des symboles.
L'occurrence, c'est quand même
délirant. Soit on a un impôt.
Oui, mais est-ce que l'ISF n'était pas aussi un symbole? C'est-à-dire, le rendement de l'ISF n'était pas non plus si important.
Si vous dites
qu'il mérite d'être maintenu à tout prix,
si vous trouvez que 5 milliards d'euros, c'est pas
mais
beaucoup.
Combien de gens sont partis? Combien de centaines de millions d'euros? Demandez à M. Chavagneux ce qu'il avait. Il avait fait une étude où il disait qu'il y avait des conséquences fiscales énormes.
Mais
la sortie des capitaux.
J'ai toujours entendu dire ça. Vous savez, moi, j'ai vécu et travaillé à Londres, on m'a toujours dit désormais, il y a une liste d'attente énorme au lycée français à Londres. Quand j'y étais, c'était entre 2002 et 2005, il y avait déjà une liste énorme d'attente au lycée français.
Ah, vous ne pouvez pas contredire le fait qu'il y a eu,
des exilés,
un départ assez massif de haut patrimoine français lors du quinquennat précédent.
J'ai sous les yeux un chiffre qui est relatif à 2014. Alors j'ai que celui-là, mais c'était le rapport annuel du ministère des Finances pour 2014. Ça ne veut pas dire que les autres années, c'était exactement la même chose. Mais il y avait eu 748 départs de ménages de France avec un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros, mais aussi 300 retours de ménages qui avaient aussi ce patrimoine supérieur. Donc le solde, ça faisait 450.
C'est pas
si énorme que ça non plus.
Ne soyons pas hypocrites.
de Bercy. C'est les chiffres de Bercy, mais
ce sont les vrais chiffres exonérés.
C'est un rapport annuel du ministère des Finances. Ah oui. Mais Valérie Rabonneau,
vous avez tous les actifs professionnels.
Vous avez énormément de clients, vous, par exemple, comme avocate fiscaliste, qui sont.
Je ne vais pas dire ce que j'ai.
Non, mais qui sont partis, c'est-à-dire qui ont fait le choix.
Comme avocate fiscaliste, j'imagine que vous en avez. J'ai écrit un livre sur les exilés fiscaux et j'ai été donc interviewée tous les gens, donc j'ai vraiment vu. Il y a énormément de personnes, mais pas qu'en Londres, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, au Portugal, voilà, partout, il y a eu un départ massif entre 2011 et 2015.
Non mais évidemment qu'il y a eu un départ important.
Personne n'est capable de donner le chiffre.
Mais
c'est
non mais
incroyable.
ne soyons pas hypocrites. Si vous dites que la fiscalité n'est pas là pour faire des symboles, il fallait pas proposer une taxe à 75% pour les très hauts revenus.
Au début du précédent quinquennat,
ça a été requalifié.
Mais si vous dites que c'est massif, donnez un chiffre. Enfin, moi, je suis ahurie que tout le monde dise que c'est massif et personne n'est capable de dire exactement combien de patrimoine sont partis.
Mais vous savez, l'attractivité d'un pays se regarde aussi en fonction de ce que pensent les pays voisins de votre pays et vis-à-vis des investissements, notamment.
Oui. Vous allez dans la Silicon Valley, qu'est-ce que vous en dites sur la France? On dit que la France est un paradis fiscal pour les entreprises
qui
se créent.
Pour les start-up. Mais oui, les start-up ne représentent pas l'essentiel de l'économie. C'est vrai qu'il y a un régime fiscal très favorable pour les jeunes entreprises.
Mais dans ce cas, déjà, commençons par le dire nous-mêmes.
Vous parlez d'un petit morceau de notre économie et tout le reste souffre malheureusement d'un gros déficit d'attractivité. Mais juste, il y a une phrase que Valérie Rabault a dit que je voudrais contredire. La fiscalité, ce ne sont pas des symboles. Non mais un budget, c'est quand même la résultante de politiques publiques. Donc il est quand même normal, et c'est pas l'ancienne rapporteure générale du budget que je vais l'apprendre, que se retrouvent dans le budget les conséquences de politiques publiques, donc des symboles politiques évidemment.
Valérie Rabault, juste sur la question de l'attractivité, on terminera là-dessus parce que évidemment la discussion est passionnée ce soir et ça passe très très vite. On est en période de négociation du Brexit. Est-ce que c'est pas aussi une bonne façon aujourd'hui que de donner quelques signes? Alors non pas particulièrement aux exilés fiscaux parce que comme vous le dites, c'est très très compliqué d'avoir des chiffres un peu fiables, mais de donner une sorte de message à l'étranger, de dire bah voilà, venez investir chez nous parce que finalement du point de vue fiscal, vous ne serez pas totalement assommé.
Alors déjà, je pense que je vais pas vous faire la langue de bois, je pense qu'en France, on est nul en marketing fiscal. C'est-à-dire qu'on affiche des taux super élevés, qui peuvent paraître super élevés à un certain nombre de nos confrères européens. Mais
et
en fait,
ne sont pas tant que ça.
Mais non, parce qu'il y a des exonérations de partout. On est les champions d'Europe des niches fiscales.
Parce qu'on a fait une usine à gaz et qu'on est plus capable nous-mêmes de la présenter.
Mais je suis d'accord que les usines à gaz, elles existent.
Donc il faudrait y revenir chez nous parce que vous aurez plein d'exonérations, c'est ça?
Non, regardez le taux réel que vous payez. C'est la seule vérité qui compte. Vous prenez votre montant d'impôt, vous le divisez par vos revenus et vous calculez le taux réel. Et vous verrez que même sur des revenus très importants, ceux qui payent 45%, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je dis que quand on affiche un taux à 45%, effectivement, ça peut paraître élevé, mais le taux réel payé est très, 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 très inférieur à celui-là. C'est pour ça que je dis, en marketing fiscal, on est nul.
Donc on est plus compétitif, on le dit, Manon Laporte, et ce sera presque la conclusion.
On a une fiscalité dérogatoire aux pays européens. Vous le savez, en termes d'IS, en termes d'impôt sur le revenu, sauf à Londres, effectivement.
IS, c'est l'impôt sur les sociétés.
Impôt sur les sociétés en ISF.
Jamais.
Mais le taux de 33, bon, qui a baissé à 28, il est totalement appliqué. Et en Angleterre, allez interviewer les chefs d'entreprise, voyez ce qu'ils vous diront. Ils vous diront, on va aller en Irlande où c'est 12,5 et on va pas en France où c'est 28. Est-ce qu'on aurait dû descendre déjà à 22%? On n'est pas du tout dans la fiscalité européenne.
Bon, bah merci en tout cas à tous les trois de nous avoir donné un avant-goût de ce que seront les débats à partir de la semaine prochaine, auxquels vous ne participerez pas directement, en tout cas Manon Laporte.
Mais j'écouterai.
Vous n'êtes pas député, mais voilà, vous écouterez, puis vous interviendrez sans doute par d'autres voix que celle de l'Assemblée nationale. Merci à vous, donc Manon Laporte, merci Valérie Rabault, et merci à Laurent Saint-Martin d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez, donc par exemple au moment de l'évaluation de cette réforme, sur notre site. franceculture.fr. Merci à l'équipe du Grand, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Élise Leu.